être footballeur professionnel. Styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Bah, je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève, c'est l'émission qui fait dialoguer demain, aujourd'hui et hier. Le principe est simple, deux invités qui partagent la même passion, le même métier et le même engagement. L'un débute, l'autre a déjà fait ses armes. Nos invités aujourd'hui sont Salomé Gasselin et Skip Sampé. Et ils aiment la musique baroque.
Nous aussi.
Salomé Gosselin et Skip Sampé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux actuellement deux des acteurs du festival Terpsichore, du nom de la muse grecque de la danse, qui a lieu dans divers lieux de Paris. Et vous êtes tous deux des musiciens baroques. On rappelle que la musique baroque, c'est celle de la période qui couvre à peu près un siècle et demi. Je ne me trompe pas, entre 1600 et 1750 à peu près.
Oui, voilà.
Salomé, vous jouez de la viole de Guam dans The Goldfish Ensemble. Je ne sais pas si on dit comme ça, Goldfish Ensemble.
The Goldfish Ensemble.
En français, l'ensemble du Chardonneret. Alors, j'ai juste envie de vous demander, quand je vois votre jeune âge, comment avez-vous eu envie un jour de jouer de la viole de Guam ? Parce que pour moi, c'est tous les matins du monde, Martin Marais.
Martin Marais. Eh bien, j'ai commencé par le violon, puisque quand j'étais jeune, je ne connaissais pas la viole de Guam. Et c'est un peu un hasard, j'ai rencontré l'instrument au détour d'un couloir. Et c'est devenu je suis tombée vraiment amoureuse de cet instrument. Et suite à ça, j'ai eu des profs qui ont un peu changé ma vie et qui m'ont vraiment lancée sur la route et encore fait encore plus apprécier l'instrument. Voilà.
Quand vous dites que vous tombez amoureuse d'un instrument, vous tombez amoureuse de son son, de sa forme, parce que c'est aussi très physique,
c'est
la musique.
C'est vrai. Alors, un peu des deux. Déjà, le son, c'est un peu la première caractéristique qui m'a touchée. Mais c'est vrai que la viole de Guam, en plus, on a un rapport physique avec l'instrument qui est très sensuel. Et ça, c'est quelque chose qui me parlait. Voilà. Donc, on choisit un peu son instrument, je pense, aussi, en fonction du rapport physique qu'on a avec lui.
Skip Sampé, vous êtes organiste, vous, musicologue, vous dirigez votre propre ensemble, je vais mal le prononcer, donc Capriccio Stravagante.
Voilà, vous avez fait italien en première langue.
Tout à fait. Et vous êtes un des chefs d'orchestre baroque les plus réputés. Comment un natif de la patrie du jazz, si j'ai tout bien compris, devient une star de la musique baroque ?
Je ne sais pas. J'ai grandi à la Nouvelle-Orléans. Il est vrai qu'il y a la capitale mondiale de jazz. Mais en fait, ce qu'on apprend si on vit dans un endroit comme la Nouvelle-Orléans, c'est un esprit de liberté où on fait plus ou moins ce qu'on veut dans la vie professionnelle, personnelle, etc. On n'est pas vraiment poussé d'être médecin ou avocat ou de gagner sa vie, etc. C'est-à-dire le rêve américain avec l'argent et réputation et tout ça, c'est pas vraiment une affaire de la Nouvelle-Orléans. Il y a un esprit qui est complètement libre. Donc le jazz est libre, mais l'esprit autour du jazz et cet esprit du vieux sud et de la Nouvelle-Orléans, c'est quelque chose qui motive beaucoup.
Et comment on découvre le baroque à la Nouvelle-Orléans ?
Par le disque. Parce qu'aux États-Unis, on n'a pas vraiment de radio digne de son nom.
Pas comme chez nous.
Non, pas du tout. Donc, c'était plutôt via le disque. Mon jeune collègue Jean Rondeau, qui est un claveciniste absolument exceptionnel, qui a grandi à Paris, lui, il dit toujours dans ses interviews qu'il a entendu le clavecin pour la première fois à la radio. Qui était Radio France, en fait. Mais ça, c'est l'avantage d'être petite européenne, très impressionnée par la musique classique qui est disponible sur la chaîne de la radio. qui est absolument génial. Mais pour moi, c'était le disque.
C'était les disques de vos parents, c'était...
Non, c'est les disques que j'ai achetés. J'ai entendu comme par hasard un disque de Bach quand j'étais très jeune, un disque de clavecin avec du Bach, avec Gustav Leonhardt. Et c'est comme ça que j'ai découvert le clavecin et toute la musique ancienne. Après, j'ai commencé à ramasser une énorme collection de disques en Renaissance et Baroque.
Salomé, vous êtes jeune, vous allez faire une carrière sûrement dans la musique baroque, en tout cas on vous le souhaite, vous avez envie sûrement de... Chaque génération la réinvente, alors quand on a votre âge, comment on dépasse la révolution qui a été portée par la génération d'avant, par exemple Jordi Savall, William Christie ou même Skip ?
La question n'est pas évidente, mais je vais essayer d'y répondre. Je pense qu'on s'appuie sur tout l'apport en fait, de ces générations et de ces musiques qui ont été apportées donc, par Gustav Leonhardt, que Skip vient de citer, et par voilà, Jordi, Skip. Et aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de recherches qui ont été faites. C'est plus du tout le même travail qu'il y a 60 ans, mais on est encore dans cet esprit où la musique ancienne est quand même un monde où on doit beaucoup chercher, on doit encore aller chercher des manuscrits. On est vraiment dans cet esprit de découverte permanente.
Il y a encore beaucoup de choses à redécouvrir et à apporter au public.
C'est ça, complètement.
Juste comme ça, la musique baroque, justement, vous parliez de Marin Marais, etc., est très connue pour sa relation forte entre maître et élève. Comment ça se passe encore aujourd'hui, cette relation ?
Ça continue. Ce qui est fascinant en relation maître-élève, c'est le rencontre entre les gens qui ont le maximum de talent, en fait. C'est les rencontres vraiment exceptionnelles entre un certain nombre de musiciens qui font un ensemble, qui font des concerts, des répétitions et des disques, en fait.
Et quand on rencontre le public et qu'on est jeune, par exemple...
Tu es prêt pour envoyer le premier ?
Ça se passe comment, en fait ? On se rend compte d'un coup qu'il y a des dizaines de gens qui sont fans de vous et qui vous regardent avec amour toucher une viole.
Alors, en fait, le public, on est parfois ce public-là. Par exemple, moi, je vais encore écouter les concerts et je suis encore fan de personnes comme Skip. Et alors que, voilà, je le connais maintenant, mais je garde ce rapport du public que j'ai moi aussi en tant que public quand je vais au concert. Donc c'est un rapport quand on est sur scène qui est très agréable, mais qui finalement on connaît très bien et on peut se mettre très bien à la place du public. En fait, il n'y a pas vraiment de distance avec le public.
Et Horacio Vecchi avec Skip Sampé.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Quand on est donc un chef ou une jeune, comment on dit, violoniste,
violiste, violiste,
violiste. Qu'est-ce qu'on attend en fait du public? Qu'est-ce qu'on a envie que le public ressente? Comment on a envie qu'il se comporte? Comment? Parce que il est dit que les publics de musique classique sont plutôt âgés. On dit que leur moyenne d'âge est plutôt à 60 ans. Comment ça se passe? On espère qu'ils ne meurent pas pendant la pièce ou comment ça se passe?
Non, c'est pas ça. De toute manière, on compte sur un public qui peut ressentir les mêmes choses que nous, on ressent quand on joue. Et nous, en fait, on parle un peu trop à travers le monde, dans les sondages, etc., de l'âge du public pour la musique classique. Ce qui nous intéresse en tant qu'interprète, c'est l'âge des gens sur scène. Et la plupart des gens sur scène avec nous ont moins de 40 ans. Donc, tout cet esprit de sondage, si on est en train de perdre un public, on est quand même en France, on a des charges à faire, on est des employeurs et on est employeur, tous les chefs de tous les groupes en France. Donc, on fait nos contributions sociaux, jusqu'au côté fiscal, on engage énormément de monde. Il y a des milliers de fiches de paie par an. Donc nous, on est en fait autoconcernés. Pour le public, je trouve aussi vraiment trop bidon qu'on critique le public à cause de son âge. Parce que moi, j'aurai 60 ans bientôt aussi.
Ça se voit pas.
Et les... Merci. Mais bon, soit. Mais aussi, on ne peut pas priver les gens à la retraite des concerts de musique classique à cause de son âge. Je ne suis pas du tout pour les gens qui défendent l'idée qu'il faut arrêter la musique classique parce que le public est trop vieux.
Ah non, du tout. Vraiment pas. Surtout pas. Mais comment on fait pour... par exemple, on sait que le Venezuela, ils ont une politique extrêmement innovante et ambitieuse en matière de musique, par exemple, pour les jeunes. Comment vous, par exemple, Salomé, vous verriez... Comment vous convertiriez quelqu'un?
Qu'est-ce qu'ils font?
Alors, ils forment tous les ans à peu près 30 000 à 40 000 musiciens par an, avec une politique où ils vont dans les écoles, etc. Enfin...
Oui, en tant que musicien, nous, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Par exemple, on fait des répétitions publiques. J'ai un ensemble, du coup, dont on parlait au début, en Hollande, et nous, on ouvre nos répétitions au public. Donc, ça peut être des enfants, ça peut être des amis qui ont notre âge, 20, 25 ans.
Et le public adore ça. Même quand je dirige, par exemple, le Collégium Vocal de Gand à Saintes, dans les cantates de Bach ou un programme comme ça de grande musique religieuse, les répétitions sont ouvertes et il y a facilement 80 ou 100 personnes qui assistent pendant tous les 3 heures, séance de 3 heures de répétition. Le public est absolument fasciné par la manière de répéter. Ils aiment voir cette espèce d'arrière-scène.
Parce qu'en plus, voilà, on comprend beaucoup mieux la musique et on se rapproche des musiciens et du chef, en fait, en tant que public, quand on arrive à accéder à ces répétitions publiques.
Et en tant que chef, comment on engage, justement, des jeunes musiciens? Comment on fait
C'est quelque chose que j'ai déjà fait, même avant que j'étais chef, parce qu'en fait, je suis claveciniste beaucoup plus que chef. Il est vrai que je dirige de plus en plus, mais on a toujours eu, Capriccio Stravagante à 30 ans cette année, on a toujours eu
Joyeux anniversaire.
Merci. Des jeunes en développement. C'est-à-dire que Les Affleurissants et William Christie, ils ont fait école avec un programme pour les jeunes voix qui s'appelle Le Jardin des Voix. Et en fait, Capriccio Stravagante a fait la même chose pendant 30 ans, mais c'était un jardin des instruments, mais dénommé Capriccio Stravagante. On a toujours eu des très jeunes dans le Capriccio qui étaient toujours des meilleurs éléments au monde. Quoi.
Comment vous êtes passé de claveciniste à chef? Qu'est-ce qui motive ce changement? Il y a un moment, l'envie d'être... de donner le là, pardon, mais en tout cas d'être celui qui décide...
Non, en fait, c'est juste pour agrandir un répertoire. En claveciniste, on a un répertoire en soliste presque illimité. On a 350 ans de musique. Si on met toute la musique Renaissance, toute la musique du de l'époque classique, etc. Mais ça agrandit le répertoire. Si on est chambriste ou claveciniste, on ne fait pas nécessairement un requiem de Jean-Gilles ou un vêpre de Monteverdi ou un opéra de Rameau. Et c'est pour agrandir le répertoire que j'adore faire.
Et concrètement, on passe comment n'importe quel instrumentiste peut devenir chef? Il faut des compétences, enfin des qualités particulières, vous pensez?
Il faut savoir ce qu'on veut et il faut connaître la pièce davantage que les musiciens qui sont devant soi. Ça, c'est le règle.
Et vous, Salomé, ça vous tenterait plus tard d'être chef? Parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans la musique classique qui deviennent chef, mais c'est quand même pas le plus courant. Donc, ça vous tenterait?
Alors oui, j'y pense. Pour l'instant, j'apprends aux côtés des maîtres et puis voilà, le fait de travailler au contact de gens comme Skip, Sampé, Raphaël Pichon, on apprend beaucoup d'eux et puis un jour je me lancerai.
Parce qu'en fait, il y a des chefs, les gens travaillent avec les chefs exceptionnels et là, ils apprennent comment faire. Si on travaille avec les chefs qui sont un peu moins exceptionnels, on apprend aussi, mais on apprend comment pas faire.
Et vous,
mais
vous
apprendre,
avez
c'est apprendre.
Vous avez appris avec qui?
Tout seul. En fait, j'ai été complètement autodidacte en chef d'orchestre parce que j'ai jamais travaillé avec un chef d'orchestre. J'ai jamais joué dans un orchestre qui n'était pas le mien. Et j'ai fait ça pour la première fois à Barcelone en juin avec Jordi Savall. J'ai presque 60 ans et c'est la première chef avec laquelle je travaille.
Et c'est quoi votre relation justement au fait que d'un coup vous avez un chef? Alors Jordi Savall, c'est quand même un des maîtres dans le domaine. Comment ça se passe en fait entre deux chefs qui se rencontrent?
Ah non, dans ce cas-là, il n'y a pas deux chefs. Il y a un seul chef et l'autre personne qui fait partie de l'orchestre ou de la préparation de l'anglais pour un opéra de Purcell ou la préparation des chanteurs solistes ou un truc comme ça. Mais c'était absolument génial. C'est quelque chose que je ne ferais pas ailleurs, de toute manière. Mais pour un projet comme ça, il faut dire oui à un moment donné.
Et est-ce que vous, par exemple, Salomé, travaillez avec Jordi Savall, ça vous tenterait?
Ah, bien sûr. Ça, j'ai pas encore eu l'occasion. Mais surtout quand on est violiste, c'est quelqu'un à qui on a affaire très jeune par les CD et puis après en allant l'écouter en concert. Donc en tant que violiste, en plus, travailler avec lui, ça serait un honneur.
Est-ce que pour apprendre, on essaie d'imiter? Par exemple, vous parliez à l'instant des CD, vous essayez d'imiter ce que vous entendez?
Alors, oui, en partie. Enfin, par exemple, moi, tout à l'heure, je disais que j'ai eu cette passion par mes professeurs de la viole de gambe aussi, parce que mes professeurs étaient des musiciens de Skip. Et c'est par les CD de Skip, en fait, que je suis vraiment tombée dans la marmite et que j'ai beaucoup appris. Et le but, c'est pas de faire du Skip Sampé, mais c'est de s'en inspirer.
Et tout à l'heure, vous disiez qu'être chef d'orchestre, c'était agrandir son répertoire. Vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes frustré parce qu'il y a des morceaux que vous aimeriez jouer et personne ne vous demande de les faire? Et vous attendez avec impatience qu'on vous appelle pour, je ne sais pas, jouer Rameau ou jouer je ne sais quel air de Bach? Alors là, c'est pas très radiophonique, vous dites non, c'est ça? Vous êtes très contente.
Non, j'ai pas saisi, excusez-moi.
Ah, pardon.
J'étais en train de rêvasser.
Si vous y avez des morceaux que vous adoreriez jouer, mais que personne ne vous demande de jouer et vous impatientez, vous dire, mais quand est-ce qu'on va me demander de jouer ça?
Ça, c'est plutôt moi que Salomé, en
ouais,
fait.
Ouais, je pense que Skip, il a plus d'expérience dans le domaine. Après, moi, j'aimerais vraiment, vraiment jouer des opéras de Rameau, être une violiste parmi d'autres dans l'opéra, ça serait chouette.
Ce qui est absolument génial pour la viole de gambe en ce moment, c'est que la France est le capital mondial de la viole. On a plus de bons violistes extraordinaires en France que dans les autres pays, en fait. Les clavecinistes aussi, quand même.
La relève. Tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Est-ce que Couperin, c'est mieux que Dr. Dre? C'est la question que je pose à Abline pour sa chronique hebdomadaire. Est-ce que c'était ou pas mieux avant?
Savez-vous, Christophe, Skip et Salomé, comment l'on sait qu'on a vieilli?
Ben oui, on se regarde dans la glace.
Non, il suffit d'allumer la radio, de se mettre sur une station comme Radio Campus, c'est-à-dire plutôt dédiée à la jeunesse. Et lorsqu'une piste se lance, non seulement vous êtes déboussolé tellement cela ne vous dit rien, mais en plus vous commencez à grommeler. On a tous entendu nos parents le faire, le fameux « Non mais qu'est-ce que c'est que ce maître Gims ?» Moi de mon temps, Brassens ou Brel ou même Gainsbourg, c'était quand même autre chose. Eh bien non, ce n'était pas autre chose. La preuve. Vous pouvez l'entendre au casque si vous voulez.
Moi je t'attends comme un gland sur le parking d'Auchan, où y'a pas de bateau mouche, où y'a pas de goéland, y'a que des caddies de course, des papas, des mamans, des lessives, des nounous.
Ah, ces violons, cette voix, vous êtes décidément la plus grande des mélomanes, Abeline.
Oui, quand on entend cela, on se demande quand même si ce n'était pas pire avant, hein. D'accord, c'est facile, il y a toujours eu de la musique populaire prête à écouter et facile d'accès. Mais parlons plutôt accessibilité de la musique. Il y a fort longtemps, la musique était circonscrite au palais, au théâtre et aux églises, parfois à la fête du village, parce que la musique était vivante. La musique était un spectacle vivant, et donc dans un temps. Puis, les moyens d'enregistrement ont fait de la musique un loisir bien loin du spectacle vivant, mais qui se diffuse largement. De l'ascenseur à Franprix, de la pub à l'espace travail, au point où l'on pourrait dire aujourd'hui, le son est partout, la musique est nulle part. Alors, qu'est-ce que cela nous a apporté ? Eh bien, la chose la plus essentielle peut-être, c'est que le silence a de plus en plus de prix. Selon Gordon Hampton, qui est bioacousticien, il ne reste qu'une cinquantaine d'endroits dans le monde où la biophonie, le son des êtres vivants, et la géophonie, le son des éléments naturels comme l'eau, sont intacts. En protégeant le silence, nous protégeons la musique, car comme on le disait de Mozart, le silence après Mozart est toujours du Mozart. Alors je vous propose d'apprécier dès aujourd'hui le silence de demain.
Et voilà la perverse Abeline qui me fait parler après Gasparo Zanetti, Intrada del Marquese di Caravaggio. Moi, j'ai fait en italien aussi, première langue.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Je voudrais rebondir sur la chronique d'Abeline et vous demander, Skip, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé justement d'entendre un de vos morceaux dans un ascenseur ? Et qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là ?
Non, mais en fait, on a fait un disque consacré à la musique de consort, de viol, etc., de William Byrd, il y a 15 ans. Et à un moment donné, j'ai entendu ça sur une bande d'annonce de faire patienter le clientèle de Citibank. Donc, j'ai jamais entendu ça dans un ascenseur, mais oui, chez Citibank, pour faire patienter la clientèle.
Et alors ?
J'ai entendu, parce que j'ai entendu le truc, j'étais en train de patienter, je me suis dit, bon, c'est très bien, mais ça doit être qui ? Et un tout petit peu plus loin, je me suis dit, bon, c'est nous.
Et ça, vous étiez fier ou c'était...
J'ai commencé à réfléchir dit, si j'ai touché les droits ou pas. Parce que le musicien doit toucher ses droits pour être tout à fait honnête, pour rejoindre le monde de temps en temps. Il faut qu'on gagne un peu d'argent comme tous les autres. Ça faisait plaisir parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a choisi ça, qui n'a pas choisi les quatre saisons de Vivaldi ou un mouvement bidon d'un concerto de Mozart.
Un André Rieu.
Ou André Rieu ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était nous.
Et vous, Salomé, en fait, moi, il y a une question que je me pose, justement, comme il disait, revenons un peu sur Terre et parlons du fait que, quand même, il y a des droits et donc de l'argent. Qu'est-ce que ça fait quand on arrive devant ses parents et qu'on leur dit, papa, maman, non, je ne ferai pas médecine, je vais devenir violiste.
Et je vis une viole de gambe qui vaut 150 000 euros. Voilà, c'est une bonne question.
Ça, la viole de gambe à 150 000, c'est vraiment la question. Non, je rigole. Mais moi, j'ai beaucoup de chance parce que mes parents ont été très compréhensifs et très ouverts. Et
les miens aussi, d'ailleurs.
Et ils m'ont vraiment portée dans ma passion.
Et ils étaient mélomanes eux-mêmes ?
Oui, ma mère est musicienne, donc pour elle, c'était quelque chose qu'elle connaissait, un monde qu'elle connaissait déjà, même si elle ne vient pas de la musique ancienne. Et ensuite, oui, j'ai des amis pour qui c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même, j'ai eu particulièrement de la chance à la maison.
Et vous avez quel âge exactement ?
J'ai 23 ans.
Alors, à 23 ans, vous écoutez pas que du baroque ?
Non, évidemment. Okay.
Alors, je sais pas moi, est-ce qu'on peut jouer The Avener à la viole de gambe ?
Alors, j'ai jamais essayé, mais il y a de la musique contemporaine. Après, il y a aussi des duos improbables qu'on peut faire, je sais pas, de la viole et du bandoneon, ou juste avec des copains et on prend la viole et on s'accompagne et on chante. Et il y a plein de possibilités avec une viole de gambe. Et puis... voilà, j'ai 23 ans, mais je pense que toute ma vie, j'écouterai de la musique ancienne et pas que.
Qu'est-ce que vous écoutez d'ailleurs tous les deux comme musique en dehors de la musique baroque ?
Pour être complètement honnête, ce que j'entends le plus à la maison, c'est mes disques préférés de Jordi Savall. Mais ça, c'est en Renaissance et en baroque, parfois en médiéval.
Et c'est lesquels vos préférés ?
Il y a un disque d'Erasmus de Rotterdam, il y a un Folia et Canario. Il y a tellement que j'aime que ça, on peut les répéter. Je suis aussi un très grand fan de Pat Metheny et de Patricia Barber, une copine à moi qui habite Chicago, qui fait le jazz, pianiste, chant, etc. Et j'aime énormément les pianistes morts.
Pourquoi ils ne font pas concurrence ?
Parce que jouer comme un pianiste mort, c'est peut-être le plus grand compliment qu'on peut donner à un pianiste en vie. C'est le vieux école qui est plus touchant, qui est moins lisse, qui a plus de grain, qui a... bon, voilà.
Et vous, Salomé ?
Alors, moi, ça dépend des périodes. En ce moment, j'écoute le Young Blood Brass Band, qui est un brass band qui vient des États-Unis. Pour ce qui ne concerne pas la musique ancienne, j'écoute aussi Brel, Barbara. Et voilà, pour les cours français, je ne sais pas, en ce moment, ça va être du stupéflip, voilà, ce genre de musique.
Merci à vous deux d'être venus. On avait encore beaucoup de questions à vous poser. Merci en tout cas.
Vous venez d'écouter La Relève, au micro Christophe Bis
et la divine Abeline Majorelle.
Et à la réalisation aujourd'hui, le merveilleux Rémi. Retrouvez-nous sur la page Facebook La Relève Radio Campus. Vous retrouverez le podcast de l'émission, mais aussi les différents éléments qui la composent. Bonne semaine à tous et à dans 167 heures.